C'est ludique, 9h30, 10h.
Bienvenue dans C'est ludique, les amis. On était en train de discuter avec Anne-Gaëlle au téléphone et donc du coup, ben forcément, on discute et on oublie qu'on est en direct. Bonjour Anne-Gaëlle, ça va ?
Bonjour tout le monde. Oui, puis on va éviter de polluer les gens avec notre discussion.
C'est ça, exactement. Alors aujourd'hui, je vais parler de Castle of Mad King Ludwig. Tu connais ce jeu ?
Oui, je connais ce jeu.
Tu connais ce jeu. Très très bon jeu, je vous en parle dans quelques instants. Et puis on retrouvera bien entendu Paul-Henri et Céline en fin d'émission pour jeu et apprentissage. Mais tout de suite donc Anne-Gaëlle, c'est les chroniques des Mini People et aujourd'hui tu vas nous parler des petits poissons dans l'eau, je crois.
Oui, c'est ça, je vais vous parler de Allez les petits poissons. Allez les petits poissons, vous voyez, un peu genre.
Allez les petits poissons, allez.
Allez, on y va et on essaye de gagner. Enfin, on dit ça quand on est dans l'équipe poisson, mais si on est dans l'équipe pêcheur, on va essayer qu'ils n'avancent pas en fait.
Ah oui, ah bah oui, forcément. Oui.
Alors, c'est un jeu pour les tout petits, puisque c'est à partir de 3 ans. Donc forcément, on est sur une accessibilité des règles, il faut le savoir. Quand je vais vous expliquer, vous allez dire, mais c'est tout simple. Mais en fait, pour les tout petits, ça peut être plus compliqué que ça. Alors, c'est un jeu de Gunther Burkhardt et illustré par Matt Koffenberg. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours des noms difficiles ou c'est moi qui ai un problème.
Non, mais c'est un jeu Ravensburger, donc c'est des Allemands.
Bon. Exactement, c'est édité par Ravensburger. On peut jouer de 1 à 6 joueurs à partir de 3 ans. Et c'est en effet un jeu que l'enfant peut jouer tout seul, vous allez voir après. Donc
ah ouais,
c'est un petit jeu de...
C'est bien ça.
Il y a quand même un jeu de hasard, parce qu'il y a un lancer de dés.
Ah, ok.
Alors, d'abord, dans la boîte, vous allez trouver un bateau en 3D à monter. Donc ça, il faut le faire par l'adulte. Hein. L'enfant ne sera pas capable de le faire, mais une fois qu'il est monté, il ne bouge plus.
Ok.
Ok. On va trouver 2 figurines en bois pêcheur. Une figurine toute rouge et une figurine toute verte. Mmh. Et 4 poissons en bois. Un jaune, un bleu, un orange et un rose.
En bois, ils ne vont pas vraiment nager alors.
C'est des poissons bizarres, de couleurs bizarres.
D'accord.
Non, ils peuvent pas vraiment nager. Mais vous allez avoir un plateau en 3 morceaux, un peu comme des puzzles, sur lequel, en fait, qui va représenter la rivière, et les poissons vont essayer de rejoindre la mer qui est au bout du plateau.
D'accord.
Ok. Donc, on va positionner les 3 morceaux de plateau. La barque, le bateau va être à l'opposé, tout au bout, à l'opposé de la mer. Et les poissons, eux, vont être au milieu. On va démarrer la partie avec les 4 poissons au milieu. Mmh. Et, comment ça va se passer? Le bateau va essayer d'avancer pour kidnapper les poissons, mais les poissons vont essayer de rejoindre la mer.
Ok.
Ok. Au début du jeu, vous allez choisir soit d'être dans l'équipe pêcheur, soit dans l'équipe poisson. Un peu, tu sais, comme le jeu des tout petits, la poisson pêcheur.
Je ne connais pas ce jeu.
Tu connais pas ça?
Poisson pêcheur, non.
Hein, on comptait, c'est les maternelles qui font ça, les
ça
pêcheurs
fait longtemps,
ils ont les bras levés.
Je suis plus en maternelle. Hein.
Ouais, pardon, c'est vrai que moi j'y baigne encore, donc c'est pour ça. Mais enfin voilà, on va choisir. Avec les plus petits, ceux qui ont du mal avec la frustration, on peut aussi se mettre dans la même équipe. Hein.
Ouais.
On joue contre le jeu, c'est tout à fait possible.
D'accord.
Même si c'est pas prévu comme ça, ça fonctionne très bien. Alors comment on va jouer? À notre tour de jeu, on va lancer le dé. C'est un dé avec les 6 couleurs finalement, ouais, parce qu'on a 4 couleurs de poisson, 2 couleurs de pêcheur, et on va avancer le pion de la couleur en question. Si je lance le dé et que je tombe sur du rose, et ben je vais avancer le poisson rose.
Mmh.
Okay. Si à un moment donné, le poisson a atteint la mer et qu'il est sauvé, super, c'est génial, on avance comme ça. Et puis, si après, je refais sa couleur, c'est-à-dire si le poisson rose était parti à la mer, il est sauvé et que je refais rose, je peux avancer le poisson de mon choix. Donc là, on va essayer de sauver celui qui est le plus proche de la barque, forcément.
Bah oui.
Sinon, il va se faire attraper. Si par contre, le bateau arrive sur une case où il y a un poisson, il l'attrape, et une fois qu'il est attrapé, si on fait la couleur de ce poisson, eh bien, c'est la barque qui avance.
Ah, ok.
Donc, il y a cette petite gestion pour les enfants.
Et
comment ?
Non, vas-y, je t'en prie, on est toujours dans la barque.
On est toujours dans la barque. Et comment ça va se passer ? Quand tous les poissons ont soit été attrapés, soit mis à la mer, parce qu'il y en a qui vont arriver jusqu'à la mer, d'autres qui vont être attrapés, quand il n'y a plus de poissons disponibles à bouger, eh bien, en fait, on va regarder où est-ce qu'il y a le plus de poissons. S'il y a plus de poissons qui ont rejoint la mer, c'est les poissons qui gagnent. Si, par contre, il y a plus de poissons dans le bateau, c'est les pêcheurs qui gagnent.
Mm-hmm. Et alors, on peut jouer à combien, du coup ?
C'est jusqu'à 6.
Jusqu'à 6, donc 2 équipes de 3, par exemple.
Oui, c'est ça, on pourrait faire ça. Après, je pense que c'est un peu long pour les tout-petits, personnellement.
Ouais.
Je pense que l'idéal, c'est peut-être à 4 maximum, parce que 6, ça veut dire que chacun fait juste un lancer de dé avant son poisson et attend ce que 5 personnes jouent avant de relancer le dé.
C'est vrai, c'est un
Il
peu long.
Il y a plus foufou, quoi.
Ouais.
Mais ce qui est chouette, c'est-à-dire que vu qu'il y a un travail au niveau des couleurs, après, une fois que l'enfant il a assimilé les couleurs poissons, etc., il peut se faire une petite course lui-même en se disant « aujourd'hui, je suis les poissons, aujourd'hui, je suis le pêcheur. »
Ah bah oui.
Enfin, voilà. C'est le genre de jeu que nous, parents, on se dit quand l'enfant dit « on fait une partie de poisson !» parce qu'ils adorent, c'est tout...
Oui.
C'est tout bête, attention, c'est pas négatif ce que je dis, mais c'est tout simple, c'est facile d'accès pour eux, donc ils veulent y jouer, c'est le genre de jeu qu'ils veulent jouer encore et encore.
Ouais.
Et c'est le jeu des parents, ils disent « Encore, petit poisson !» Mais pour les enfants, c'est addictif. Et le matériel, donc c'est une réédition, c'est un jeu qui était déjà publié il y a une dizaine d'années. Et là, le matériel est vraiment grossi, c'est-à-dire pour les petites mains, pour attraper la barque est vraiment très très grosse, les pêcheurs qui sont positionnés dedans sont bien positionnés, et les poissons sont faciles à manipuler, donc pour les petites mains, c'est top.
D'accord, très bien. Donc ça s'appelle « Allez, les petits poissons ».
Allez les petits poissons.
Ah oui, c'est comme ça qu'on le dit. Allez les petits
poissons.
Non,
enfin, je sais pas si c'est comme ça, mais moi je le dis comme ça.
Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Donc, allez les petits poissons, c'est sorti, hein, c'est chez Ravensburger.
Oui, tout à fait, c'est sorti.
Eh bien, à mercredi prochain.
À mercredi prochain, passez une bonne semaine.
Salut, salut.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Les véritables châteaux du roi Louis II sont des œuvres d'architecture à couper le souffle en Bavière, à tel point que le château de Disneyland est en fait calqué sur l'un d'eux. Castle of Mad King Ludwig, un jeu de Ted Alspach qui arrive enfin en France grâce à Lucky Duck Games. Ce jeu était sorti il y a quelques années, mais il n'avait jamais eu de version française. Alors la couverture de la boîte de Castle of Mad Ludwig représente un château imposant au milieu d'une forêt de pins bordant les sommets enneigés du sud-est de l'Allemagne. Il ne manque plus que la belle au bois dormant. Bienvenue donc dans les châteaux du roi Louis II, au programme des châteaux pittoresques créés au caprice d'un fou. Le roi Louis II vous a chargé de construire le château le plus extravagant de tous les temps. Cependant, cette tâche est compliquée. Non seulement vous devez construire votre château, une pièce à la fois, mais vous devez également vendre des pièces à d'autres joueurs pour faire face à votre budget qui est assez serré. Alors pour l'emporter, il faudra construire le château qui va plaire le plus au roi. Et si c'est le cas, eh bien vous pourrez revendiquer le titre d'être le meilleur architecte du royaume. Alors au niveau de la mise en place, nous avons un grand plateau avec la piste de score autour du lac. Votre pion de scoring sera d'ailleurs un signe. Le roi Louis II aimait beaucoup cet oiseau. Et sur ce plateau, vous allez poser les tuiles du château par pile en fonction de leur forme. Ces tuiles polyomino vont représenter les pièces du château. On posera également les cartes, un certain nombre selon le nombre de joueurs, et ces cartes nous servent à tirer les nouvelles pièces du château disponibles à la vente. Alors votre objectif principal dans les châteaux du roi Mad Ludwig est de construire le château le plus réussi. Il y aura des objectifs que tout le monde connaît, des objectifs secrets que vous avez eu en début de partie, vous prenez deux cartes et vous en gardez une, et vous pourrez en récupérer d'autres pendant le jeu. Alors vous marquez les points aussi à chaque fois que vous posez une pièce du château. Mais alors comment on joue? Eh bien c'est simple, à chaque tour, un joueur sera l'architecte. Son rôle est de fixer les prix des différentes salles du château qui sont disponibles à construire. Chaque joueur pourra à son tour choisir la pièce qu'il souhaite construire et devra en payer le prix à l'architecte. L'architecte aura tendance à placer les pièces du château intéressantes pour les joueurs à des prix élevés. Après que tous les autres joueurs ont construit leurs pièces, eh bien, l'architecte peut choisir parmi les pièces restantes et cette fois, lui paye la somme à la banque. Il aura moins de choix forcément. A son tour, un joueur peut, s'il le souhaite, ne pas acheter de pièces, mais acheter un couloir ou un escalier pour un prix fixe de 3000, ou bien ne rien acheter du tout, dans ce cas, il récupérera en passant son tour 5000 de la banque. Lorsque vous achetez une tuile, vous devez la placer de telle sorte qu'au moins une porte de votre château se connecte à la nouvelle tuile sans se chevaucher. Vous obtiendrez des points pour la valeur de la tuile. Vérifiez ensuite l'icône centrale de la tuile. L'icône centrale d'une tuile donne généralement des points bonus si une pièce est reliée à une autre pièce d'un type spécifique par des portes sur de tuiles adjacentes. Attention, les pièces doivent être placées de telle sorte qu'au moins une des portes se rattache à une porte d'une pièce déjà dans le château et qu'un chemin puisse être tracé de cette pièce à celle de départ. En gros, une pièce ne peut pas être placée si on ne peut pas y rentrer, c'est logique. Mais c'est pas tout. À chaque fois que vous avez réussi à connecter toutes les entrées d'une salle à des entrées d'autres salles, eh bien cette pièce est dit achevée. Vous remportez donc un bonus. Le bonus que vous recevez dépend de la salle qui se trouve entourée. Par exemple, les salles de vie, les violettes, vous permettent de gagner de nouveau les points de la salle. Les chambres vous donnent 10 000 pièces. La salle d'alimentation, les jaunes, eh bien vous permettent de rejouer immédiatement. Les salles utilitaires, les oranges, permettront à un joueur de regarder deux cartes bonus et en garder une. Les pièces d'activité, les marrons, vous donnent 5 points. Une fois par tour, vous pouvez obtenir aussi un couloir libre ou des escaliers si vous terminez une pièce ou un couloir. Il y a au total 8 bonus. Il est possible aussi d'ajouter une cave, mais pour ajouter une pièce en bas à votre château, vous devez avoir des escaliers menant du niveau principal au sous-sol. Le jeu va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pièces à construire, c'est-à-dire que toutes les cartes du jeu ont été retournées. Pendant la partie, vous avez gagné des points à partir des pièces de votre château. En fin de partie, vous marquez des points en fonction des différentes faveurs du roi, représentées par des jetons posés sur le plateau. Si une pile de polyomino est vide, y compris les couloirs et les escaliers, eh bien, vous aurez 2 points pour chaque pièce que vous avez sur l'une de ces piles. On marque des points pour nos objectifs secrets et si on a gardé de l'argent, on obtient aussi un point pour 10 000 pièces. Le joueur qui a le plus de points, eh bien, est le gagnant tout simplement. Castle of Mad King Ludwig brille dans le gameplay. Les valeurs des pièces sont en constante évolution. Le choix des valeurs de marché permet une certaine aussi manipulation des autres joueurs car l'argent pour les pièces achetées va aussi au premier joueur. Cela crée un beau dilemme de ne pas mettre ce que vous voulez trop bon marché pour que les autres le prennent, mais pas en laissant ce qu'ils veulent vraiment trop abordable non plus. Une très bonne rejouabilité, il existe aussi un mode solo, une extension est prévue aussi. D'ailleurs, la boîte du jeu permet de la recevoir. Tout est expliqué. Vraiment, en tout cas, une très très belle surprise, ce Castle of Mad King Ludwig.
C'est ludique, des jeux et des hits. C'est ludique, 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio.
Et on parle de jeux et d'apprentissage le mercredi avec Paul-Henri et Céline. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un jeu que je ne connais pas qui s'appelle Viva Topo.
C'est ça, et puis c'est un vrai coup de cœur. C'est un jeu qui est pas très connu, on n'en entend pas souvent parler, et pourtant il a eu le spiel, la fameuse récompense suprême voilà, pour les enfants. Et en classe, c'est vraiment un plaisir à y jouer. Alors, pour te faire un petit peu la présentation rapide du gameplay, il y a un plateau au milieu de la table.
Ouais.
Et sur ce plateau, en fait, on a une grande case centrale qui est scindée en deux.
D'accord.
Et sur cette case centrale, en fait, on a une partie de cette case qui sert à faire partir les souris.
Ouais.
Qui vont sortir de leur terrier. Mmh. Et en fait, elles vont devoir faire tout le tour du plateau et retourner dans l'autre partie de la case centrale, qui est le pays de Cocagne, qui est rempli de bons fromages.
D'accord, ok. Donc la souris doit récupérer du fromage.
Donc voilà, donc en fait, c'est juste les souris qui doivent sortir de leur trou, faire le tour du pays de Cocagne, et ensuite attraper du fromage. Sauf que tout ça, ça serait trop simple s'il n'y avait pas un chat au milieu.
Ah bah, forcément.
Voilà, et en fait, toute la mécanique du jeu qui est vraiment originale, c'est qu'en fait, on a chacun 5 souris, et à chaque fois qu'on va lancer le dé, on va pouvoir attribuer le lancer du dé au nombre de cases dont vont avancer une seule de nos souris.
D'accord.
C'est-à-dire que tu vas devoir choisir une souris parmi tes 5, tu fais un 3, tu te dis, tiens, je vais la faire avancer de 3 cases. Sauf qu'il n'y a pas de case 6, et sur la case 6, en fait, il y a un 1 et un chat.
Okay.
Et quand tu vas faire ce 1 et ce chat, ben, en fait, tu vas pouvoir attribuer un déplacement de une case à une de tes souris, mais tu vas aussi faire avancer le chat. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que petit à petit, le chat, il va avoir ses foulées qui vont s'agrandir et tu vas avoir de plus en plus de dilemmes pour attribuer les déplacements à tes souris au point qu'à un moment donné, si tu sens qu'elles vont se faire croquer, il va y avoir des petites sorties sur le bord du plateau qui vont permettre de dire « Bon, mais ma souris, je l'amènerai pas en pays de Cocagne. » Par contre, si elle sort dans le premier petit trou, elle va pouvoir prendre un petit bout de fromage, le deuxième, et bien, deux morceaux. Le troisième prend morceau, quatre morceaux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas en permanence faire des paris et élaborer une stratégie pour savoir si tu maintiens ton pool de souris à 5 en sachant que tu auras du mal à toutes les faire avancer ou est-ce que tu en envoies quelques-unes dans les trous pour concentrer tous tes lancers de dés sur les premières que tu vas faire un petit peu cavaler pour aller le plus loin possible.
D'accord.
Voilà. Donc c'est vraiment un jeu qui est plein de dilemmes. Et justement, ces dilemmes, ce choix et ce gameplay, mais ça va permettre de travailler de nombreuses choses pour les enfants,
ouais.
C'est ce que va nous expliquer Céline.
Oui, alors déjà, c'est un jeu qu'on peut proposer dès le cycle 1.
D'accord.
Il est intéressant à la fois à partir de la moyenne section, grande section, et à cheval aussi sur le début du cycle 2, notamment le CP. Pour y jouer, il va falloir un minimum de connaissances sur la numération, jusqu'à 5, c'est pour ça qu'on le propose à partir de la moyenne section. Par contre, c'est un des premiers jeux à règles, donc il va permettre de le proposer aux enfants pour justement accepter les règles communes et commencer à adopter un comportement d'élève.
D'accord.
Ils vont devoir apprendre à attendre chacun leur tour et prendre des initiatives et faire des choix, notamment par rapport aux souris qu'ils veulent faire avancer. Mais ça va permettre aussi de stabiliser des connaissances sur le nombre, comme mémoriser les constellations du dé. Et aussi mémoriser la séquentialité des nombres, puisque là, ils vont renforcer leur connaissance sur le nombre et les différentes représentations de ce nombre, notamment avec les constellations.
D'accord.
Et aussi ce déplacement qui est d'associer une quantité à un déplacement, qui qui n'est pas toujours évident non plus.
Mais oui, ouais.
Après, là où on sort vraiment, tu vois, du jeu de rôle un peu traditionnel, qui fait ça, tu sais, avec un dé où tu avances du nombre
de cases,
voilà, qui correspond. Là, avec Yuga Topo, ce qui est vraiment excellent, c'est qu'au niveau des choix, il y a des dilemmes permanents. Et on en parle avec Céline quand on préparait, là, c'est vraiment révélateur presque des personnalités des enfants. Tu sens que, par exemple, il y en a un qui va prendre tous ses gros lancers, qui va les mettre sur une seule souris.
Ouais.
Donc, il y en a une qui va être au fond, qui va presque rattraper le chat, mais qui il va laisser les autres, en fait, se faire croquer.
Oui, ou qui va être que dans la course, même sans faire attention à ce que font les camarades, et presque les autres auront déjà pris les gros fromages au pays de Cocagne, ouais. Et même lui, il va continuer sa course, mais finalement, il n'y a rien à gagner au final.
Oui,
c'est ça. Ouais. Donc, ça révèle des personnalités, et qu'après, ils deviennent un petit peu plus grands. Là, au contraire, on commence à voir les stratégies qui se mettent en place.
Mmh. Et après, ce qui est agréable aussi, c'est que tu vas avoir des enfants, à l'inverse, qui vont être très sécuritaires et qui vont vouloir laisser aucune de leurs souris derrière, tu sais. Ils vont vouloir faire avancer les cinq. Sauf qu'à un moment donné, c'est pas possible. Et du coup, tu vois, ça apporte une rationalité, ça apporte des discussions. Et puis ce dé, là où c'est très agréable, c'est qu'on n'est pas dans un jeu où tu peux planifier la stratégie, mais on est dans un jeu de gestion de l'instantanéité. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe? Tu as des parties où le chat va rafler tout le monde et où tu vas gagner en prenant trois bouts de fromage. Et tu as des parties où le chat va être un petit peu au fond, où ça va pas sortir, et où tu vas pouvoir les faire cavaler. Et en fait, cette différence de parties, ça en fait un renouvellement, même en tant qu'adulte quand tu joues.
Ouais.
Tu n'es pas sûr de faire les bons choix. Et je trouve que ça, c'est vraiment génial à vivre. Cet aléa dans le jeu dont on parle souvent,
ouais.
Là, il est vraiment à bon escient parce qu'il te génère une expérience différente à chaque partie.
Ouais, donc c'est ça qui est intéressant, quoi.
Ah ouais.
On n'est pas dans la stratégie, la planification, mais il y a un peu d'anticipation quand même. Mmh. Et il faut quand même se dire, attention, le chat se rapproche quand même, qu'est-ce que je fais?
Ouais.
Donc il y a ce rapport au temps qui est important pour les enfants aussi, à percevoir.
Après, on peut parler aussi de la qualité d'édition.
Ah oui.
Parce que, alors c'est un jeu allemand, donc de Manfred Ludwig. Là, il a été réédité par Matago. En prix, il est très raisonnable, mais alors la qualité du matériel, c'est vraiment de la qualité, tu vois, comme dans Pique-Plume.
On a des belles souris en bois, on a un gros chat.
Ouais, le dé est beau, il est gravé. Le plateau, c'est un plateau qui craint rien. Les fromages sont en bois aussi.
Ouais.
D'accord.
Les souris sont faites avec un petit bout de corde qui dépasse. Enfin, vraiment.
C'est agréable à prendre en main.
Ah ouais. Un gameplay rapide, quasiment pas d'installation, renouvellement de partie, matériel super.
Et qui va permettre aussi, on n'en a pas parlé, de travailler sur ses émotions. Et qui va permettre du coup, par ce petit stress qui se met en place et cette arrivée du chat, de favoriser le langage et les interactions verbales, justement par rapport à ces inattendus.
Et ça crée la discussion. Ça crée la discussion quand tu fais une partie, tu sais que tu vas te souvenir du scénario, et que généralement quand tu reparles d'une partie ou d'un jeu, comme ça c'est qu'il s'est passé quelque chose.
Ouais.
Même si c'est un jeu très ancien, parce que
il
date quand même de 2003.
Oui, ah oui, donc ça remonte un petit peu. Hein.
Mais vraiment un très bon jeu à avoir en classe.
Très bien, et ben merci beaucoup à tous les deux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.